Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux et d'être aussi ponctuels aussi. Ce soir, on reçoit Michael Tempête. Alors, Michael, tu as cofondé les éditions La Tempête. Tu es membre de la revue Trou Noir, qui est la revue des dissidents sexuels. Et ce soir, tu viens présenter La Gay Panique, une histoire politique de l'homophobie en France. Et c'est paru aux éditions Divergence. Donc, alors, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, tu dis que l'homophobie partage avec la transphobie des angoisses existentielles ou métaphysiques, celles autour du territoire de l'enfance et de l'expression de soi dans l'espace public. Pardon, je n'ai pas exactement bien mis ma virgule. Celles autour du territoire de l'enfance et de l'expression de soi dans l'espace public. Donc, quelle définition est-ce que tu donnerais à l'homophobie et est-ce que tu peux peut-être développer ces deux points ?
Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreuses. En fait, c'est que le livre, très clairement, parle surtout de l'histoire donc, politique de l'homophobie et la question de la transphobie est plutôt vraiment très en marge, mais ces deux formes de panique sociétale partagent quand même des territoires communs, effectivement, à savoir celui de l'enfance, la promiscuité, des questions d'homosexualité ou de transidentité avec les enfants, et celui de l'expression de soi dans l'espace public, c'est-à-dire cette zone indifférenciée placer les interactions sociales sur une sorte de frontière entre le privé et le public, et donc tous les espaces publics, ça va être à la fois pour les homos, je veux dire, de manière assez historique. La répression s'est portée essentiellement sur la drague dans les lieux publics, les jardins, etc. Et aussi pour ce qui est de la promiscuité avec les enfants, c'est tout l'amalgame qui est régulièrement fait entre homosexualité et pédophilie. C'est des choses qu'on retrouve énormément aussi aujourd'hui dans les paniques transphobes. Sur l'idée de détourner en fait ce que serait le bon apprentissage des enfants, à la fois en termes d'éducation, mais aussi de formation de l'esprit, de l'être, de l'apprentissage des mœurs, etc. Et ça, je le plaçais, en fait, je voulais pas seulement faire un constat en disant que c'était les choses les plus récurrentes. Je pense que si on est sur ces sujets-là, sur celui de l'enfance et sur celui de l'espace public, c'est qu'on est vraiment dans les zones les plus vulnérables et les plus sensibles de l'organisation des sociétés occidentales. C'est vraiment sur ces lieux-là que le rapport à l'homosexualité ou à la transidentité est le plus à fleur de peau. Et parce qu'on a l'impression que c'est précisément dans ces espaces-là que les choses peuvent nous échapper. Parce qu'on projette sur l'enfant l'idée qu'il pourrait être à n'importe quel instant détourné, rapté, parce qu'il faut faire attention à tous les éléments extérieurs à sa vie qui pourraient perturber son bon développement. Et pareil sur l'espace public c'est les endroits en dehors de la construction plus de celle du foyer, quoi. En fait, c'est tout l'espace extérieur, tout ce qui va constituer l'extériorité du foyer sera le lieu des plus grandes craintes et des plus grandes peurs, que c'est par là que les choses peuvent se passer, dans la pénombre, dans les choses là où ce n'est pas vu. Même si c'est l'espace public, c'est très souvent les lieux de reculer de ces espaces publics, comme je disais, les jardins ou la nuit, les pissotières, etc. Donc voilà, et je considère que si ça se passe donc dans ces espaces-là, c'est parce que c'est les espaces les plus vulnérables, où les êtres sont les plus vulnérables, il doit y avoir donc un contrôle plus assidu et plus quotidien des relations qui se nouent, enfin des interactions sociales qui s'y déroulent. Voilà.
Alors, tu écris plutôt au début du bouquin que l'homosexuel est un lapin sorti par magie du chapeau occidental à la fin du 19e siècle. Donc en fait, on comprend dans ton livre que la figure de l'homosexuel n'existait pas obligatoirement avant cette période. Comment est-ce qu'elle est créée, cette figure de l'homosexuel, ou peut-être on disait avant de l'inverti? Et est-ce que, du coup, elle est concomitante à l'apparition de l'homophobie ?
Purement sémantiquement, l'homosexualité et l'homophobie sont complètement distincts, vu que le terme d'homosexualité apparaît à la fin du 19e siècle, et celui d'homophobie apparaît dans les années 80, 1980 et quelques. Par contre, elle est surtout concomitante de sa répression, c'est-à-dire de l'homosexualité, l'invention du terme, apparaît en même temps que sa répression, précisément parce que donc elle a été inventée par un journaliste et écrivain austro-hongrois qui s'appelle Karl Marie Benkert, qui a inventé ce terme pour défendre les homosexuels face aux lois répressives dans l'Empire allemand, les pays austro-hongrois, etc. C'est qu'en fait, aussi, c'est la différence quand même qu'il faut faire dans les pays ouest européens. C'est que la particularité française, c'est qu'elle n'a pas interdit nommément en soi l'homosexualité. Elle a opéré plutôt des formes de discrimination sur certaines questions précises, mais là où, par exemple, en Allemagne, il y a eu ce qu'on appelle le paragraphe 175, donc qui était vraiment un article du code pénal hérité du code pénal prussien, qui lui interdisait formellement, catégoriquement, l'homosexualité, ou plutôt les rapports contre nature ou sodomites, etc. Donc l'inversion, en fait, le mot même, il va avoir du mal finalement quand même à être inscrit dans les lois, même si ça nommait ça, parce qu'il y a une forme de pudeur. Si on parlait d'homosexualité, il y avait le mot sexe, tout simplement, qui est obligé à se confronter à la question de la sexualité. Donc souvent, c'était plutôt contre nature qui était utilisé, et qui lui est un héritage de la culture catholique. Qu'est-ce que je voulais dire ? On était sur la définition. C'est concomitant avec la répression. C'était à la fois un terme pour se défendre, mais ce que faisait l'argument de défense, c'était de dire pour Benkert, c'est-à-dire que l'homosexualité était innée. C'était de dire que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert par construction sociale. On ne peut pas être détourné par une personne alors qu'avant on était hétérosexuel, et on est détourné par une personne homosexuelle et on devient homosexuel. C'est inné, donc c'est à l'intérieur des êtres, ça dit une vérité des êtres. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir... je ne vais pas trop développer là-dessus, mais ensuite, c'est toutes les sciences médicales de l'époque vont être intéressées par ce phénomène, par cette idée-là du caractère inné de l'homosexualité. Donc tous les théoriciens hygiénistes ou de la dégénérescence vont se dire, si c'est inné, c'est où ? C'est où dans le corps, en fait ? Ça apparaît où dans le corps ? Comment ça se sécrète ? Comment ça se transmet ? Est-ce que c'est générationnel ? Ça se transmet de génération en génération, etc. Et donc ça va avoir l'effet inverse, en fait. Est-ce que ça va faire que la... les institutions médicales vont s'intéresser à l'homosexualité et vont en fait la réprimer à sa manière. En essentialisant déjà ce désir et en essayant ensuite de proposer des formes de thérapie ou de prophylaxie ou de réorganisation de la société dont les lois ensuite pénales vont aussi découler quoi.
Alors, la police française, elle a une longue tradition, parce que oui, c'est sous-titré une histoire politique de l'homophobie. Tu parles quand même surtout de la France et de l'État français. La police française a une longue tradition de surveillance et de criminalisation de l'homosexualité masculine, condamnant des hommes, du coup, dans les années 50-60, suivant des lois héritées de Vichy, notamment donc pour outrage à la pudeur publique. Alors jusqu'à la dépénalisation, encore une fois avec des guillemets, de l'homosexualité, quels sont les rapports entre les hommes gays et la police, ou même en fait plus précisément, quel rapport a la police aux hommes gays ?
C'est des rapports ambigus en fait. Parce qu'on y a un truc, je pense, de base à poser avec la fonction policière, c'est de dire qu'elle a une marge d'interprétation que d'autres institutions n'ont pas. La police peut arriver à, enfin, et s'efforce en permanence à faire entrer ce qui déborde des cadres, du cadre légal à l'intérieur du cadre légal. Parce qu'en fait, il y a de la Révolution française, c'est-à-dire de l'abolition de la répression de la sodomie, des sodomites, jusqu'à 1942 avec le régime de Vichy qui réinstaure pour la première fois une loi discriminatoire envers l'homosexualité, ou plutôt les rapports contre nature. Il n'y a pas eu entre les deux quand même plus d'un siècle de répression nominative de l'homosexualité. Il y aura des petites lois qui vont essayer de la contrôler en interdisant par exemple l'interdiction de danser entre hommes dans des bars parisiens, des choses comme ça. Mais c'est surtout, voilà, il y aura une sorte de silence, en tout cas juridique, entre la Révolution française et le régime de Vichy. Où est-ce que je voulais en venir ? Rappelle-moi ta question.
Et du coup, on comprend que entre la Révolution française et Vichy, en fait, la police un peu aménage sa façon de faire.
Quoi. Ouais, sur la police. Tout le truc de la police, donc ça va être cette idée d'outrage public à la pudeur. Ça va être de définir qu'est-ce que c'est que cette notion de public. Qu'est-ce qui est public? Et à quel moment le public on estime que cet espace public est outragé par certaines pratiques. Non seulement il y aura des brigades qui seront chargées de contrôler les espaces de drague, donc les jardins publics, les pissotières, là ce serait la définition la plus basique de l'espace public, là où les gens se promènent, se baladent, voilà, ça appartient pas un espace privé. Par contre, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que les flics vont aussi organiser des formes d'infiltration du milieu homosexuel, et donc des bars et des bars, donc là des espaces privés ou semi-privés, semi-publics, vont entrer dedans, mais ils vont pas y aller en uniforme de police, ils vont y aller en civil et ils vont s'habiller avec la tenue vestimentaire à la mode de la communauté homosexuelle de l'époque, et vont donc dans les backrooms attendre que des personnes les draguent, leur mettent la main au paquet ou je ne sais quoi. Ensuite ils allument la lampe torche et là ils peuvent arrêter des gens pour donc outrage public à la pudeur. Donc là, ça questionne beaucoup de choses sur le fait qu'ils aillent susciter le délit, et sur ce que ça dit du rapport de la police à l'homosexualité ou à la sexualité en général. Le fait d'aller susciter quand même le délit, c'est quand même un sacré... Enfin, le rapport homosexuel, c'est quand même un sacré truc. Et dans un espace qui est vraiment... Voilà, je pense qu'on peut imaginer ce que c'est qu'une backroom. Hein, on est quand même dans une cave, dans un bar. Et donc, de pouvoir faire rentrer ce qu'eux, ils estiment là. Donc, qu'est-ce qui est outragé ? Est-ce que c'est eux ? Est-ce qu'eux, ils se considèrent comme les représentants de l'État et donc ils sont outragés ? Et tout outrage à l'État est donc un outrage public. Voilà, c'est une sorte et c'est à eux de définir les choses. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y aura eu une absence de loi qui nomme vraiment l'homosexualité, beaucoup de services de police vont le regretter et vont justement à chaque fois un peu harceler les préfets en disant qu'il faut faire quelque chose, il faut des lois qui nous permettent de réguler et de pouvoir contrôler les homosexuels. Et donc, ils vont toujours passer par d'autres biais. Et c'est encore, en réalité, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Il y a toujours des policiers qui vont dans des jardins publics, qui vont contrôler ou arrêter les mecs qui se draguent ou dans les aires d'autoroute, etc. quoi. Donc, il y a toujours des manières pour eux pour de procéder à une répression de l'homosexualité.
Oui, il y a des travaux d'archives qui sont ouf, qui sont faits sur vraiment les dossiers des keufs, genre dans les années 50-60, où ils épluchent comme ça toutes les condamnations pour outrage à la pudeur publique. Et c'est vraiment genre dans des pissotières, un flic qui regarde comme ça par-dessus, ou genre qui cherche à se faire tripoter pour ensuite mettre une amende ou embarquer. Enfin, c'est complètement ouf. Enfin, à l'endroit du consentement et à la provocation au délit, ça questionne vraiment la place du désir homosexuel aussi chez les flics, en fait.
Oui, mais en fait, ça décrit aussi, je pense, la façon dont les flics, c'est une communauté d'hommes, surtout dans ce siècle, dans ce 20e siècle français. Et donc, ils sont porteurs quand même de quelque chose de libidinal entre eux, qui n'est évidemment pas assouvi en tant qu'homosexualité. Parfois, quand on parle d'homosocialité, c'est cette socialité entre les hommes, une sorte de circulation de désir entre eux, soit par des phénomènes de reconnaissance, des phénomènes d'affirmation, de domination. C'est des choses qu'on peut voir chez les militaires, dans les équipes de foot, dans des camaraderies militantes masculines. Il y a du libidinal qui circule, mais qui ne va pas se traduire en sexualité. Par contre, il va se traduire en répression de la sexualité. Et ça va au lieu de le vivre à l'intérieur, il va se déporter sur l'extérieur et il va s'abattre sur l'extérieur. Et c'est un peu toute l'idée aussi d'analyser de cette manière-là la répression de l'homosexualité, pas seulement comme un régime hétérosexuel qui réprime une minorité homosexuelle, c'est une façon détournée de l'homosexualité. Il y a une phrase de Kangame qui dit ça, c'est que la répression de l'homosexualité est une forme détournée du désir homosexuel. C'est une manière détournée de vivre ce désir-là, mais par la répression. Bon, voilà.
Alors dans les années 60, là on parlait vraiment du côté policier, mais en fait il y a eu vraiment une bataille culturelle, une offensive réactionnaire homophobe à partir des années 60. Il y a deux exemples que tu cites dans le bouquin. Il y a le travail vraiment d'influence de SAP d'un certain docteur Marcel Eck dans un premier temps, et surtout en fait l'amendement sur le fameux fléau social de l'homosexualité du député Mirguet. Alors est-ce que tu peux revenir sur ces deux cas assez emblématique.
Donc, ils sont contemporains, et le psychanalyste catholique Marcel Eck et le député gaulliste Paul Mirguet. Paul Mirguet qui amène à l'Assemblée nationale le sous-amendement faisant de l'homosexualité un fléau social en juillet 1960. Et le fléau social, c'est quelque chose qui permet en fait au gouvernement de légiférer directement par ordonnance sans passer à nouveau par l'Assemblée nationale, par un vote des députés, pardon. Une sorte de 49-3 qui peut s'établir donc sur des fléaux sociaux comme Dans cette liste des fléaux sociaux, il y a l'alcoolisme, le proxénétisme, la prostitution, la tuberculose, la toxicomanie et donc l'homosexualité qui passe en 1960. Et ce sont des formes de... c'est censé indiquer des formes de pathologie sociale, en fait. C'est à la fois quelque chose qui est du côté du médical et du côté de l'organisation de la société. En général, ces fléaux sociaux se développent dans l'imaginaire, là je parle à la place des parano, c'est dans cet imaginaire, le fléau social, c'est, il faut s'imaginer que c'est quelque chose qui se répand extrêmement vite. Et donc il faut absolument le contenir et il se répand d'autant plus vite dans les espaces, en général les plus vulnérables que sont les milieux pauvres, les milieux prolétarisés, les milieux avec moins d'hygiène, avec où les gens sont plus habitent dans des immeubles en surpopulation, etc. En moindre accès à la médecine, tout ça. Et donc il y a vraiment une angoisse sur l'idée que en fait l'homosexualité pourrait se développer extrêmement vite dans ces espaces prolétarisés et surpeuplés. Donc il y a quand même toute une idée comme ça qui commence à fourmiller. Et parallèlement à ça, donc Marcel Eck, ce psychanalyste catholique, lui dispensait des sortes de conférences dans un institut catholique à Paris, dont le but donc de l'institut c'était de faire des sortes de séances de vulgarisation de l'éducation à destination des parents et des éducateurs pour savoir comment en fait faire l'éducation morale et sexuelle des enfants. On est en pleine période de ce qu'on pourrait appeler une sorte de laïcisation de la sexualité, pardon. En fait, l'Église n'est plus vraiment en charge de la gestion des rapports sexuels conjugaux, etc. Par contre, il y a une peur que cette éducation se fasse par d'autres institutions tierces comme l'école publique ou bien les médias, la télévision qui arrive, la presse, les magazines, etc. Il va falloir protéger la population française et surtout les enfants des mauvaises éducations. Et tous les deux, à la fois, ils ont à peu près le même type de discours, le même type de paranoïa envers l'homosexualité. Marcel Eck parle de péril homosexuel et Paul Mirguet, lui, parler d'un envahissement et l'impression d'une décadence des sociétés occidentales, des sociétés blanches. Mais par contre, un truc qui les distingue, c'est que Marcel Eck, lui, ne voulait pas qu'il y ait une répression juridique de l'homosexualité. Il voulait qu'en fait, les homosexuels n'aillent pas dans les tribunaux, mais aillent dans les cabinets de médecins, dans les cabinets de psychanalystes conservateurs. Et donc, il va vouloir développer toute une forme de thérapie de conversion qui marche en général pas très bien. Et en fait, il recevait beaucoup dans son cabinet des enfants de parents catholiques, mais aussi des séminaristes, des prêtres qui étaient envoyés là pour se soigner de leur déviance. On sait que Paul Mirguet lisait en fait les travaux de Marcel Eck et que il y avait une sorte de partage commun théorique et pseudo-scientifique de l'homosexualité.
Donc alors ce rapport à la santé, à l'hygiène, il a été un peu à son paroxysme dans la parole réactionnaire, pardon. Pendant l'épidémie du sida, dans laquelle tu écris qu'il y a une homophobie d'ambiance. Alors comment est-ce que cette épidémie, elle a influencé la pensée de l'homophobie et la pensée réactionnaire ? Quels ont été les nouveaux arguments qui ont pu être mobilisés ?
Les arguments n'étaient pas nouveaux. C'est juste que l'épidémie de VIH apportait une forme de preuve. C'est comme si c'était une preuve matérielle. Que l'homosexualité était contagieuse et qu'elle et qu'elle était morbide, qu'elle amenait à la mort. Et donc là, on a longtemps parlé, au début de l'épidémie, d'un cancer gay. Et en fait, c'est que ça... Par contre, on entre dans une autre phase, c'est que les sociétés ont dû massivement se confronter à leur sexualité, ce qui n'était pas autant le cas avant. Là, dans les médias, ça a pris, surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais des formes de panique morale extrêmement puissantes, relayées très régulièrement par les politiciens conservateurs. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut vivre en ce moment sur les questions de transphobie et de wokisme, etc., sur les plateaux télé. Enfin, il y avait une sorte de conjugaison absolument harmonieuse entre une homophobie sociale et une homophobie d'en haut. Et c'est ça la nouvelle phase qui va être importante. C'est vraiment, je pense, le fait que là, on entre dans la période des masses médias la politique classique va énormément se servir des médias de masse pour rediriger cette panique morale sur les populations. Et donc c'est là où, en fait, je parle d'homophobie d'ambiance, parce qu'en fait, ça va être partout dans la presse. Là où avant, l'homosexualité arrivait à la rigueur au moment de mai 68 et des périodes de libération sexuelle, là, ça va être quelque chose de très quotidien et d'extrêmement inquiétant. Illustré de manière extrêmement inquiétante et terrifiante auprès de la population. Et vont se rejouer ces questions des pratiques sexuelles des homos, donc des pratiques sexuelles à risque des homos, il faut protéger les enfants, parce que ça aussi, il y aura les victimes coupables et les victimes innocentes. Les victimes coupables, ce seront les gays qui auront des pratiques à risque, et les victimes innocentes, c'est les enfants qui auront subi l'influence, soit transmise par les parents, soit parce qu'ils ont été détournés par un homo.
Par le sang transfusé aussi.
C'est qu'il y a eu une immense crise politique, l'affaire du sang contaminé. C'est vrai que ça a créé deux types de victimisation, des victimisations coupables et des victimisations innocentes.
Alors dans le livre, tu mobilises à plusieurs moments Mario Mieli, dont tu as d'ailleurs édité La Gay Critique aux éditions de La Tempête, mais aussi Guy Hockengame, alors que tu cites, il écrit dans Le désir homosexuel, « L'homosexualité ne sera définie que par son manque. Elle ne constituera plus l'une des spécifications hasardeuses d'un désir polyvoque, mais sera posée comme haine de la femme en tant que seul objet sexuel social. » En quoi, chez Hockengame ou pour toi, la haine de l'homosexuel est aussi une haine de la femme?
Pour moi, ça rejoint l'idée de départ de dire que l'homophobie et la transphobie sont aussi des paniques métaphysiques. C'est qu'en fait, ça oblige la subjectivation masculine à fragiliser en fait les modes de construction des masculinités. Les femmes, les homos auront en commun pour les hommes conservateurs d'être des corps pénétrables, des corps troués, et contrairement aux masculinités qui doivent se construire, qui eux ne sont pas troués, sont des corps pénétrants mais pas pénétrables. Donc il y aura comme ça une sorte de forme de continuité établie en termes de corps, de corporalité féminine, de corporalité masculine, homosexuelle, pardon. Mais aussi ce vieux truc qui reste, l'idée de dire que la sexualité féminine est homosexuelle et insatiable, elle ne s'arrête jamais. En fait, elle n'a pas de fin, contrairement à la sexualité masculine qui, elle, a un but. Elle a un but, elle est naturalisée, Et c'est ça qui va terrifier d'une certaine manière aussi toutes les masculinités conservatrices, c'est à la fois de projeter sur les femmes et les homos une forme de sexualité infinie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de limite ontologique, de construction de l'être. Ça déborde de l'être, ça rend instable en fait la définition qu'on peut avoir de soi, et ça va être aussi ça qui va être vu chez les homos, quoi, une sorte de un des trucs notamment qui va aussi revenir en fait pendant les années 80-90 et le sida, ça va être cette obsession de des rapports homosexuels avec plusieurs partenaires et non partenaires, et donc c'est cette idée comme ça qui est une sorte de un terme que je reprends de Susan Sontag, de chaîne de transmission qui va d'un homosexuel à un autre sans fin, quoi, quelque chose qui une sorte de flux infini de désir entre les homos, et précisément les on va dire que le regard homophobe va projeter donc et pas seulement d'ailleurs en fait sur les homos et les femmes, mais vont aussi projeter ça sur les étrangers. Il y aura toute une sorte de fantasmatique dans les années 50-60, c'est-à-dire au moment aussi les sociétés occidentales commencent à perdre peu à peu leur colonie, et où du coup il y a une forte d'immigration qui ont lieu, et dont les étrangers, notamment en France, les Algériens, vont être perçus comme des gens qui ne maîtrisent pas leur sexualité, qui ne maîtrisent pas leurs pulsions, qui veulent violer les femmes, qui vont aussi énormément draguer dans les lieux de drague homosexuelle. Donc il y a vraiment cette obsession à vouloir projeter sur une sorte d'altérité une sexualité qu'on n'arrive pas à vivre en soi, enfin qu'on pourrait percevoir, mais qu'on refuse.
Sur ce continuum un peu entre le racisme et l'homophobie, tu évoques un cas très clair. C'était l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. En marge d'une manif à Paris contre la réforme des retraites, il y a une interpellation par la BRAVEM qui est filmée. Et les policiers agressent tout particulièrement un jeune homme qui est originaire du Tchad et multiplient les insultes. Il me semble qu'il est originaire du Tchad. Et multiplient les insultes racistes et homophobes. Et tu écris à cet endroit que les insultes prononcées par le policier démontrent que les pulsions racistes sont soutenues par l'abolition de la distinction entre les pulsions libidinales et les pulsions de mort. Alors est-ce que tu peux nous éclairer sur cette phrase et du coup poursuivre un petit peu sur ce continuum en fait entre violence post-coloniale raciste et violence homophobe ?
Bah, c'est un phénomène assez récurrent, mais en fait pas souvent documenté. C'est l'usage par les forces de l'ordre de l'homophobie sur les masculinités populaires ou subalternes, c'est-à-dire sur des masculinités à dominer. Et ça, c'était quand même un enjeu important dans le livre aussi, c'était d'ouvrir la question de l'homophobie en se disant que les personnes qui subissent l'homophobie ne sont pas forcément des gens qui homosexuels ou supposés homosexuels, c'est aussi en fait, c'est des sujets à dominer. Et donc ça fait de l'homophobie en fait une pratique de domination, c'est un outil de domination, donc là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de projeter sur les étrangers une forme de sexualité trouble insatiable qui vient et à laquelle il faudrait opposer une forme de maîtrise qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire des soldats, en gros des sortes d'hommes cuirasses, d'hommes carapaces, et dont la police se fait le relais. Parce que la phrase du... tu l'as pas cité la phrase, c'est ça, non ? La phrase, c'était... Ouais, voilà. On va t'emmener au Comico. Je peux t'emmener avec toi si tu veux. Et le premier qui bande encule l'autre. Donc là, je pense qu'on a l'image est assez claire. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir construire une sorte de masculinité dominante qui est celle de la maîtrise, donc celui qui bande, et celui qui ne bandera pas, ce sera la masculinité à trouée et qui est forcément forcément l'homme subalterne ou homosexuel ou quoi. Et y a plusieurs histoires comme ça. Il y en avait une autre qui s'était passée dans un quartier à Paris, à La Chapelle, où des policiers, c'était pendant le couvre-feu, Covid, etc., où ils contrôlent un mec donc qui était dehors avec le couvre pendant le couvre-feu, sauf que la scène est filmée et on voit les policiers donc insulter le mec, je t'encule, c'est toi le PD, t'es un sous-homme, etc. Avec tout cette ambiguïté toujours étonnante quand même de dire que c'est toi le PD tout en disant en même temps je t'encule, comme si enculé c'était pas un signe d'homosexualité. Et voilà, et donc c'est quand même des formes assez récurrentes, et pas seulement, je pense que en fait, c'est vrai que ça touche énormément à la question de la race, parce que sur la question de l'espace public, c'est que la police va en fait corriger aussi des formes de masculinité dans l'espace public. Il faut que certaines expressions de la masculinité n'existent, ne puissent pas se répandre et exister trop librement dans l'espace public. Les policiers ne vont pas faire du contrôle aux faciès dans le 16e arrondissement de Paris. Ils vont le faire à La Chapelle, à Barbès, etc. Et ça, c'est quand même peut-être un truc très basique, mais c'est qu'en fait, la police fait du contrôle de genre. C'est aussi un des rôles de la police que de contrôler les masculinités, de contrôler le genre, leur expression dans l'espace public. Bon, voilà. Et voilà. Et je n'ai juste à rajouter un truc, c'est que dans les masculinités à dominer, je pense qu'il y a un truc, c'est quand même des choses qui reviennent de plus en plus maintenant, donc je le dis, mais c'est la figure du gauchiste, du militant gauchiste, fait aussi partie des masculinités qui sont humiliées, souvent en garde à vue ou dans les interpellations, etc. Et ça, c'est quand même, il y a toute une histoire de ça, qui est celle de l'anticommunisme. Et donc là, on a quand même plusieurs couches qui se superposent entre le racisme, l'anticommunisme, la misogynie, l'homophobie, la transphobie, etc. Toutes ces choses se recoupent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu... on recueille tout ça de manière assez, assez brutale. Les termes de islamo-gauchisme ou wokisme aussi recouvrent, en fait, ces enjeux de pouvoir structurel, quoi.
Alors, malgré son homophobie assez structurelle, s'est constituée il y a peu de temps une association au sein de la police qui s'appelle FLAG, avec un point d'exclamation. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire FLAG, si c'est un acronyme ou quoi. Ok, donc ce n'est pas un acronyme. Est-ce que tu peux nous parler de cette association et de leur activité, et pardon, la réponse est dans la question, mais de leur application mobile?
Alors non, c'est pas, en fait, c'est pas un acronyme. C'est vraiment flag pour flagrant délit, et flag le drapeau, voilà, en anglais. Alors, cette association, elle a été fondée dans les années 2000, dans un premier but qui était d'abord de défendre la corporation policière LGBT homosexuelle. Des flics homo qui subissent de l'homophobie dans leur corporation. Et ensuite, ça s'est étendu dans le fait de vouloir accompagner et défendre les victimes de LGBT-phobie. Ils ont mis en place une application, donc pareil, pendant le confinement, en 2020, qui s'appelle FLAG, comme le nom de leur association, qui permet de signaler les cas d'agression ou de discrimination LGBT-phobe. Et toute l'opération politique, quand même, c'est de se présenter comme apartisan et asyndicaliste, donc une forme de neutralité. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ça fait depuis plusieurs années qu'il y a à peu près un scandale tous les ans autour de l'association. Il y a eu à un moment donné, il y a un peu plus d'un an maintenant, dans le conseil d'administration, il y avait un Zemmourien, donc qui a fini par prendre la tête de l'association, de devenir le président. Ça a fait un scandale en interne parce que c'était trop, ça devenait moins apartisan. Donc il a démissionné sous la pression. À la place, c'est une femme pompier, parce qu'il y a aussi les pompiers qui sont représentés. Mais pareil, là, elle a dû démissionner parce que elle aurait détourné de l'argent, elle aurait fait des trucs, elle serait partie en vacances au Canada avec sa famille. Pour... voilà. Y a un mec de Flag qui est aujourd'hui est le référent LGBT du syndicat Alliance, donc du syndicat d'extrême droite, qui est censé les sensibiliser aux questions d'homophobie, tout ça, en sachant que, en fait, aussi ces questions de sensibilisation à l'intérieur du monde policier, c'est pas seulement de savoir bien prendre en charge les cas d'homophobie, les personnes victimes d'homophobie, c'est aussi comment bien faire pour procéder à une arrestation. C'est-à-dire respecter, par exemple, l'identité de genre de la personne quand on la met en garde à vue. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est quand même soumis à une certaine ligne politique. Et donc voilà. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, elle s'est énormément fait connaître donc au moment du lancement de l'application, parce qu'à chaque agression un peu médiatisée, Flag était là quelque part en rappelant que leur application existe et qu'ils vont aider les personnes victimes à faire leur parcours de plainte, etc. Et en même temps, ça se sent que ça marche pas très bien l'application. Quand on parcourt les rapports annuels de récolte des données qui sont traitées par la Fondation Jean Jaurès, donc une fondation du Parti Socialiste, et des sociologues un peu reconnus dans le milieu LGBT comme Arnaud Alessandrin, des sociologues, au service de ça. En fait, ce qu'il en ressort, c'est que 70% des actes qui sont signalés dans l'application se passent sur Twitter. Et donc, en fait, ça montre très bien en miroir à quoi peut servir ce type d'application. Qui, en fait, si on veut faire du chiffre, il suffit de rester une heure sur Twitter. Et effectivement, je pense qu'on peut signaler énormément de cas de LGBT-phobie. Et seulement à peu près 30%, voilà, c'est du témoignage de... parce que c'est pas pour porter plainte, hein, l'application, hein, c'est vraiment juste du signalement et ça sert juste à la récolte de données. C'est un pur outil sociologique et statistique, mais qui est censé ensuite aider la police à réprimer ou à agir différemment en fonction des zones géographiques et auxquelles ils sont confrontés, quoi. Mais ça marche pas, enfin, il y a un truc, personne fait ça, enfin.
En fait, le propos du bouquin... Enfin oui, du coup, avec cette appli, genre, on se géolocalise, on dit ce qu'on a vu. Donc du coup, ça permet de voir où est-ce que... En fait, pas là où il y a des agressions, mais où est-ce qu'on les signale. Donc c'est une espèce de cartographie policière un peu chelou aussi. En fait, j'ai l'impression que le sujet de ton livre, c'est aussi comment l'homosexualité masculine a été pourchassée, vilipendée pendant très longtemps et que maintenant devient une espèce d'espèce protégée, quoi. Enfin... C'est mis en valeur au sein de la police. Il y a des espèces de concours du meilleur patron LGBT et tout. Et en fait, ouais, l'espèce à condamner auparavant devient l'espèce à protéger maintenant. Quand est-ce que ça s'est opéré, ce virage? Comment est-ce que tu l'expliques?
Je pense que c'était inéluctable dans la mesure où, dès le départ, l'homosexuel était l'enjeu d'une... Il y avait un enjeu sécuritaire autour de l'homosexualité. Parce que quand il s'agissait de le réprimer, il y avait aussi la police du renseignement qui s'intéressait aux homosexuels parce qu'ils pouvaient être en contact avec avec des certaines formes de délinquance, de proxénétisme, de bars clandestins, de vente d'alcool clandestin, tout ça, de pègres, etc. Et donc, en fait, il y avait, dès le départ, l'homosexuel est soit victime, soit victime d'agression, soit détourneur délictueux sur la voie publique. Donc il est perçu uniquement par ce biais-là, par un enjeu sécuritaire. Aujourd'hui, on ne quitte pas vraiment cet enjeu sécuritaire. C'est la même chose, la question sécuritaire, elle est absolument centrale dans la façon dont on a d'appréhender l'homophobie. Et c'est quelque chose. En fait, il y aurait un énorme travail en fait à faire là-dessus sur pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affects sécuritaires sur la question de la sexualité en général, pas forcément l'homosexualité, mais la sexualité en général. Il y a un opportunisme évidemment d'État aujourd'hui à présenter les homos comme des victimes. Ça permet de se placer comme un intermédiaire entre victime et bourreau, et ça permet, au lieu de faire le procès des structures homophobes de la société, de faire le procès d'individus désignés homophobes. Et ça, c'est tout. Ensuite, un peu la dernière partie du livre sur la critique de la façon dont la répression pénale s'exerce sur l'homophobie, c'est qu'en fait, en individualisant autant le cas et en ayant uniquement des solutions carcérales, on ignore complètement les structures profondes de l'homophobie dans la société. Et c'est une ignorance qui est consciente, c'est quand même évident. Donc bon, voilà. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus délicate, parce qu'il y a pas, c'est difficile de à chaque fois on me demande si j'ai d'autres solutions que la solution carcérale pénale. Ce serait un autre travail à faire à partir des travaux, par exemple, de justice transformatrice. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a quand même un intérêt, et on voit bien aussi que quand même les questions de solution carcérale n'ont pas d'efficacité sur... Il y a de plus en plus d'agressions homophobes et transphobes, et pour autant l'épée de Damoclès sur le fait que maintenant c'est punissable, ça résout strictement rien. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai perdu le fil.
Il y a un endroit dans le bouquin où tu dis que dans le cas d'agression vraiment homophobe, il y a une espèce d'explication un peu psychanalytique qui peut dire qu'en fait, l'homophobe est un homosexuel refoulé. Et c'est que du coup, dans cette agression, l'hétéro et l'hétérosexisme est complètement écarté. Ça dédouane complètement le régime hétérosexuel, quoi.
Ouais, ben en fait, c'est parce que je tranche pas dans ce genre de choses, parce que je pense qu'il faut à la fois accepter l'idée que ça puisse être une homosexualité refoulée. Ça peut l'être dans certains cas, je pense qu'il ne faut pas le systématiser, tout ça. Moi, de manière plus générale, on peut au moins dire qu'il y a quand même un malaise avec la sexualité en général. Voilà, point barre. En fait, c'est déjà suffisant. Et sur cette idée de représentation qu'on se fait fantasmatiquement de l'homosexualité comme une perversion, comme sexualité insatiable, etc., une sorte de jouissance qui détruit les certitudes qu'on a de soi. Et en fait, je pense qu'on pourrait pas aller au bout de la compréhension de ça sans mettre en suspens en général les conceptions rationalisantes de l'homophobie. Je ne crois pas que ce soit juste une oppression du régime hétérosexuel sur le désir homosexuel. Je crois que le point de départ, le problématique, c'est la division en différentes sexualités, en orientations sexuelles. En homosexualité et en hétérosexualité. C'est cette division qui permet ensuite une hiérarchisation. Mais sans cette division de base, on pourrait avoir un autre type de compréhension. C'est-à-dire que l'homosexualité comme une orientation sexuelle, ça a juste eu pour conséquence politique de faire des personnes homo, trans, etc., des minorités. Et une minorité n'est jamais vraiment tout à fait politique, parce qu'elle ne il y aura jamais de mouvement de masse pour les minorités. C'est, d'emblée, ça nous met dans une sorte de rôle de suiveur de tendance plus générale, et ça interdit d'avoir des analyses plus transversales et générales à partir des questions homo-trans. Et je pense qu'il faut vraiment dynamiter en fait ce problème de base qui est celle. En fait, on le fait très bien aujourd'hui quand on parle des questions trans sur la différence sexuelle, sur le fait que la distinction juste homme-femme ne tient pas. Il faut vraiment arriver à le tenir aussi sur la question des sexualités. Voilà.
Ben merci. On va peut-être faire circuler le micro dans la salle s'il y a des questions. Je vais vous amener un micro.
Bonsoir, merci, c'était hyper intéressant. Bon, j'aurais plein de questions, mais celle qui m'est venue le plus, c'est qu'on a beaucoup abordé la question de l'homosexualité masculine. En effet, celle qui a été le plus réprimée politiquement et qui même encore aujourd'hui cristallise beaucoup de choses, alors que l'homosexualité féminine, il n'y avait plus ce côté dont on ne la voyait pas trop, où il n'y avait pas ce truc sexuel autour, tout ce truc sodomie, tout ça. Et du coup, je me demandais si politiquement, il y avait une histoire aussi de l'homophobie d'État envers l'homosexualité féminine, et si oui, quelle forme elle avait pris.
Alors, je me suis moins confronté à ça, hein, je veux dire, parce que je suis parti d'un point de vue situé qui est ma propre expérience en tant que PD. Ce qui est clair, c'est que l'homophobie d'État n'a pas du tout procédé de la même manière. Et en fait, ce qui s'agit pour l'homosexualité féminine, pour les femmes en général, c'est que ça a été délégué à la famille. Et en fait, ça rend aussi des formes de violence beaucoup plus larvées et fermées et invisibles, parce que c'était à la famille de gérer elle-même ce cas-là. Et ça, c'est juste des. Ça se base sur des choses sociologiques ou matérialistes, c'est qu'en fait, les femmes et les hommes ne circulaient pas de la même manière dans l'espace public. C'était beaucoup plus le rapport au foyer ou le rapport aux espaces de rencontre, mais fermés, qui était beaucoup plus sollicité par les femmes, mais du coup qui avait un autre rapport à la surveillance et même à la perception de la sexualité. C'est aussi une méconnaissance de ma part qu'il faut que je reconnaisse. Et en fait, je me suis aussi concentré sur l'homosexualité masculine parce qu'en fait, pour moi, ça m'a permis de faire tout le lien avec l'histoire du colonialisme et du racisme sur les masculinités subalternes en France et de le faire dès le départ. Et parce que le projet de réprimer l'homosexualité, c'était aussi, à la fin du 19e, c'était aussi un projet de. C'était pas seulement pour la France, mais c'était aussi pour les pays que la France colonisait à l'époque. Mais sur l'homophobie d'État, tu vois, il n'y a pas de loi qui nommait l'homosexualité féminine. Quoique, en fait, rapport contre nature, ça aurait tout aussi bien pu concerner. Mais voilà, je pense qu'il y avoir des travaux plus précis que ce que je viens de dire.
Non, merci, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un veut le micro.
Du coup, juste pour continuer les débats là-dessus, te remercier, merci beaucoup de la réponse que tu viens de donner, de la poser comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand on analyse les oppressions, l'homosexualité dite masculine et l'homosexualité dite féminine, voilà, les lesbiennes ne sont pas des femmes, voilà. Et c'est vrai que des fois, on tend à reproduire les régimes de visibilité et d'invisibilité et qu'on laisse la chose comme ça, en mode, voilà, les lesbiennes étaient invisibles, et voilà, et on finit par essentialiser la chose, en mode, ouais, les lesbiennes sont invisibles, où sont les lesbiennes, où sont les lesbiennes, où sont les lesbiennes. Bon. Et on finit par essentialiser la chose plutôt... Et de, comme ce que tu viens de répondre, genre non, il y a un échelon intermédiaire qui c'est la famille. Du coup, je pense que, du coup, ouais, effectivement, que quand des fois, quand on répète, les mantras de ouais, les lesbiennes sont invisibles, non, juste, on est en train d'être lesbophobes, mais en plus, on est en train d'invisibiliser les violences familiales. Du coup, voilà, merci beaucoup parce que ça me permet aussi de voilà, tisser des choses dans ma tête. Merci.
Elle a plusieurs formes et en fait, je pense que même la base est instable, elle n'est pas claire. Parce qu'en fait, la notion même d'homophobie, elle repose sur une autre notion instable qui est celle d'homosexualité. Qu'est-ce qui est homosexuel ? En fait, et c'est quand même, et ça a été tout l'enjeu quand même. En fait, s'il y a une volonté aussi d'organiser tout, de mobiliser plein d'institutions médicales, académiques, juridiques, pour définir l'homosexualité, c'est que déjà il y avait une sorte de, en fait, de comment on dit, de malaise sur son origine. Et en fait, c'est un malaise général sur les origines. Pour identifier qu'est-ce qui forme un désir et le fait de vouloir le mettre comme une vérité à l'intérieur d'un individu, comme une identité, c'est séduisant au début, même pour les homos eux-mêmes, parce que ça permet de stabiliser quelque chose, de pouvoir partir de quelque part. Le problème, c'est qu'en fait, les travaux de l'historien David Halperin sont absolument passionnants là-dessus. C'est qu'il démontre comment, en fait, dans la notion même d'homosexualité, il y a plusieurs types d'homosexualité qui se superposent. Et, à la fois, autant l'homosexualité qu'on pouvait l'apercevoir dans la Grèce antique, c'est-à-dire dans des rapports d'initiation plutôt entre quelqu'un d'adulte avec quelqu'un de jeune. Donc c'était un rapport beaucoup plus initiatique. Après, il y avait des rapports plus égalitaires qui ont été menés donc beaucoup plus sur la forme calquée sur le modèle hétérosexuel de on se construit ensemble, on s'entraide, on construit un foyer ensemble, on met de l'argent ensemble, etc. Et donc il y a plein de dynamiques comme ça qui... aussi l'homosexualité par exemple comment on dit de opportuniste, c'est-à-dire en fait au début il y avait même un amalgame pas très clair entre prostitution et homosexualité. C'est que c'était pour la police, c'était dans les années 20, dans les années début 20e siècle, ne concevait pas n'avait pas une définition claire d'homosexualité comme une orientation sexuelle à part. C'était forcément du fait de gens intéressés pécuniairement, qui étaient donc eux qui étaient désignés comme les actifs, les homosexuels actifs. Donc c'était pas le rapport pénétrant-pénétré qui était mobilisé, mais actif, c'est-à-dire c'est ceux qui se mettaient en recherche de plans et qui avaient un intérêt pécunier. Et il y avait les homosexuels passifs qui eux juste étaient vraiment les vrais pervers. Les vrais pervers, et donc il y avait la notion de perversion qui était un peu là derrière et un peu maladive, un peu machin, mais ils avaient vraiment du mal en fait à faire une distinction, et c'était toujours corrélé soit un client soit un prostitué, bref, en tout cas, et aussi l'homosexualité en prison, c'est-à-dire par exemple dans les lieux où il n'y a que des masculinités, aucune femme, et donc l'idée de dire, ben, comme il n'y a aucune femme, on est un peu obligé de faire du sexe avec un homme, machin, machin. Et en fait, il y a plein de façons de voir ça qui, en fait, ne créent pas une définition un peu claire et rassurante pour tout le monde. On a l'impression qu'en fait, on peut devenir homosexuel par plein de biais différents. Et donc, y compris le fait d'être autant obsédé sur le fait que les enfants puissent être détournés, c'est-à-dire qu'une sorte de... on projette sur les enfants une forme de malléabilité, de perméabilité à ce qui est extérieur. Et tout l'enjeu, ça va être quand même de solidifier des sortes des définitions les plus claires possibles pour pouvoir les identifier, mais aussi pour pouvoir s'en écarter ou s'en accommoder. Parce que je pense qu'il y a aussi une forme d'homophobie libérale qui viendrait dire « j'ai pas de problème avec les homosexuels, moi je ne le suis pas, mais eux le sont, mais moi je ne le suis pas ». Il y a quand même des façons d'être sûr de sa sexualité et parfois d'un peu trop marquer la certitude de sa sexualité. Et l'homophobie en fait récupère toute cette instabilité définitionnelle de l'homosexualité. Elle a un caractère complètement illogique et c'est pour ça que je ne tranche pas sur le fait de dire est-ce que c'est l'homosexualité refoulée, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une haine. Ça peut être un mélange de tout ça. Est-ce que oui, ça peut être un besoin de réprimer, ça peut être un besoin de dominer, ça peut être une réaction instinctive, ça peut être quelque chose de complètement construit et rationalisé. Et les formes les plus rationalisées, c'est les formes étatiques, c'est les formes normatives aussi, c'est les règles qu'on ne voit plus. Je pense que à l'école, on peut faire très simplement l'expérience de ça. Les cours d'éducation sexuelle, etc. Il n'y a pas forcément d'homophobie là-dedans, mais le simple fait que ça n'existe pas, c'est nié, c'est quand même une forme de... Cette indifférence-là est une forme de rejet. Et quand l'épidémie du VIH est arrivée, il y avait non seulement les réactions les plus basiques d'homophobie, d'insultes, d'agressions, etc., mais il y a aussi l'indifférence étatique qui a laissé mourir les homos sans mettre en place des dispositifs pour venir sauver les gens, en fait. Et donc l'indifférence est aussi une forme active d'homophobie. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça prend plusieurs formes et c'est dû à quelque chose d'assez illogique à la base, quoi. Il y a aussi un truc, ça je ne l'ai pas abordé là dans la discussion juste avant, mais le fait qu'aujourd'hui, par exemple avec le dernier gouvernement là, de Barnier et compagnie, quand il arrive au gouvernement, on a très vite sorti du tiroir le fait qu'il ait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Le fait qu'il s'était prononcé contre le mariage pour tous, etc. Et maintenant, il dit qu'il ne va pas toucher aux droits, etc. Bon, soit. Le truc, c'est qu'en fait, les formes étatiques aujourd'hui d'homophobie ne vont pas s'exprimer précisément contre les homos. Ils ne vont pas remettre en cause l'existence des homos. Par contre, ça va prendre une forme détournée qui est celle de l'idéologie LGBT. On n'a rien contre les homos, mais on a un problème avec l'idéologie LGBT, ou le wokisme, ou l'islamo-gauchisme, etc. Et en fait, ça va prendre des formes détournées qui ont quand même des conséquences énormes, parce que ça, ces notions-là, elles sont mobilisées de manière extrêmement intense ces derniers temps. Et ça rejoue cette scène du détournement des esprits. C'est parler d'idéologie ou de religion woke, etc. C'est vraiment l'idée qu'on va détourner, pénétrer les esprits. Et c'est une image, mais c'est une image mentale extrêmement puissante. Et ces discours-là qui sont aujourd'hui quotidiens, ça produit en plus des formes d'autorisation des agressions et des violences corporelles sur les homos et les personnes LGBT. Donc c'est pour moi, il y a un lien entre cette homophobie d'en haut, que je dirais voilà, d'en haut, qui se passe seulement dans les discours, et cette homophobie d'en bas qui se fait beaucoup plus dans les interactions sociales. Voilà, ça par exemple, c'est deux types d'homophobie, on peut dire, si on pourrait dresser ça comme ça, mais qui fonctionnent ensemble, l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on juge et qu'on met en prison, c'est l'homophobie d'en bas, pas celle d'en haut.
qu'il y ait une autre question, une autre remarque?
Merci. C'est juste pour réagir à la question qui avait été posée par rapport au côté de la structure. C'est juste que ça m'a fait écho à la notion de l'autocontrôle de Norbert Elias et de la déviance de Howard Baker. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose à dire dessus. Est-ce que je le vois... Enfin, j'imagine des choses par rapport à ces notions de manière assez logique, ou est-ce que... Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez commenter par rapport à ces deux notions.
Tu peux définir les termes autocontrôle. Tu veux dire l'intériorisation de la répression?
Ouais, en quelque sorte. Enfin, c'était... Bah. c'est quand il y a eu tout le côté l'individualisation et que l'autocontrôle était vraiment quelque chose d'attendu. Oui. Okay. Avec... Enfin, sur comment dire, la répression était attendue d'être apportée par la population elle-même, en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui pourrait relever de cette structure-là, pas forcément la norme du coup, mais de par attente de, il faut qu'on se contrôle entre nous-mêmes. Et ben, il y a la déviance qui s'installe. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais
non, mais oui, mais en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a pu appeler la libéralisation sexuelle. Je veux dire, libéralisation et pas libération, ça a déporté sur les individus le poids de la construction d'une sexualité et de sa responsabilité par rapport à la sexualité. Ça a produit effectivement des formes, en fait, ça a produit des formes d'autocontrôle et de normalisation extrêmement. Et c'est là où, en fait, c'est là où c'est très compliqué, parce qu'en fait, ces formes-là cohabitent avec les formes de militantisme. L'idée de fierté, pour moi, elle découle de ça. C'est-à-dire la fierté d'être soi, la fierté de sa sexualité, ça découle d'un rapport comme ça, individuel, avec, de soi à soi. Et ça vient stabiliser des choses qu'en fait... placer en soi quelque chose qu'on devrait beaucoup plus percevoir de manière transversale dans les rapports. Et en fait, on hérite énormément de ça, et je pense qu'en fait, les postures un peu libérales aujourd'hui sur l'homosexualité ou sur les politiques LGBT qui sont beaucoup plus associatives ou reproduisent ce rapport-là. En fait, il y a aussi quelque chose que je fais dans le livre, c'est qu'en fait, l'homophobie, elle ne vient pas que des conservateurs. La notion même d'homophobie est une notion libérale. Ça arrive dans les années 80, c'est un psychologue hétéro, mais qui voulait défendre les homos et qui voulait en fait, que l'homophobie intègre le DSM, donc le manuel des pathologies mentales. Alors que quelques années auparavant, l'homosexualité venait de sortir de la liste des pathologies mentales, du DSM. Et donc c'est dans un but de défendre les homos en disant, voilà, il y a de l'homophobie, des homophobes, c'est un problème psychologique, mais ça vient individualiser. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de psychologiser, ça a fait porter le regard sur les individus et plus sur les structures de la société. Et je pense que la suite du militantisme s'est énormément appuyé sur cette conception-là. Ça a produit un truc qui serait de dire que l'homophobe, c'est toujours l'autre. C'est jamais soi. Personne ne se revendique homophobe. Même les pires homophobes ne vont pas se dire homophobes. Ils vont trouver une manière de se défendre de ça. Et je pense que ça, on pourrait le dire, mais y compris pour les homos eux-mêmes. On sait très bien que l'intériorisation de la répression de l'homosexualité, elle est concomitante de la construction de son propre désir. En même temps qu'on commence je ne sais jamais quel terme utiliser, en fait, s'éveiller à son désir, rencontrer son désir. Il y a la répression qui est toujours là derrière. Et après, il y a plusieurs instances qui font en sorte qu'elle soit intériorisée. L'école, la famille, la société, les médias, tout concourt à ça. Et un malaise sociétal général sur la sexualité qui fait qu'elle est taboue. Et donc, du coup, ça se passe dans la tête, quoi. pas si ça...
Merci.
Merci beaucoup pour les questions et les interventions. Merci beaucoup, Michael. Vraiment, c'est un super beau bouquin que tu conclus par un poème, d'ailleurs. J'avais un peu oublié, on en a pas parlé, mais... Enfin, voilà, vraiment, c'est un très, très beau bouquin. Merci vraiment beaucoup, Michael Tempête, d'être venu ce soir.
Merci.
On a présenté La Gay Panique, une histoire politique de l'homophobie. C'est paru aux éditions Divergence. On va continuer la discussion pas assis et sans micro. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Bonne soirée. Merci.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.